16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter, autour de trois personnages issus d'époques différentes, mais ayant chaque fois un point commun, aujourd'hui celui d'avoir été des grands flics. Pour m'épauler dans cette spéciale police, celui dont le casier judiciaire est totalement vierge, un citoyen exemplaire qui ne s'est jamais retrouvé avec des menottes, sauf de son plein gré lors de cette soirée un peu particulière à Joinville-le-Pont en novembre dernier.
Oui, je pensais que t'avais oublié.
Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, bonjour Joinville-le-Pont, bonjour à tous.
Je m'en souviens, j'y étais.
Celui qu'on vient d'entendre, c'est Olivier Marchal, on voit déjà bien notre invité spécial, voilà, pour cette spéciale.
Et ça tombe bien, parce que notre thème cet après-midi, vous l'avez dit, 22 v'là les flics, qui ne seront pas 22, mais 3, et c'est déjà très bien comme ça. Alors d'abord, Alphonse Bertillon, considéré comme le père de la police scientifique, avec des méthodes nouvelles qui ont permis d'identifier les suspects bien avant l'ADN. Et oui. Roger Borny, policier spécialisé dans le grand banditisme, qui aurait arrêté 567 truands au cours de sa longue carrière. Et quant à vous Mathieu, vous aurez la lourde tâche de brosser le portrait à 99% vrai de notre invité du jour, un ancien flic reconverti en génial cinéaste, Olivier Marchal.
Bienvenue merci Olivier Marchal, bien, merci d'être avec nous. Vous êtes notre invité spécial durant ces deux heures à l'occasion de la diffusion ce soir des épisodes 3 et 4 de la mini-série La Promesse qui a commencé la semaine dernière sur TF1, une série dans laquelle vous jouez un flic, oui, Olivier. Mais oui, il y a toujours la passion, il y a toujours un truc nouveau à jouer quand vous incarnez un flic. Vous vous dites jamais en recevant un scénario, plus de flic.
Ben, je me le dis, mais on me propose que ça. Donc, je fais des flics ou les voyous. Non, j'ai eu la chance de jouer de Maupassant, et puis de jouer au théâtre aussi. Mais c'est vrai qu'en télévision, il y a quand même énormément, 90% des productions, c'est des polars. Donc, forcément, avec la tronche que j'ai, je vais pas faire un curé. Donc, non, mais un curé à Joinville-le-Pont. Voilà.
Oh, je vois le scénario. Ça y est. Avec nous, comme chaque jour, nos nombreuses et passionnantes rubriques portées par nos nombreux et passionnants chroniqueurs, pas toujours en bon terme avec la justice d'ailleurs, à commencer par celui qui n'est pas rassuré par la présence d'Olivier Marchal. Son casier n'est pas vierge, hein. Sniffage de Tipex, trafic de space brandade de morue. Il a dans les commissariats d'assez mauvais souvenirs, il a passé de nombreuses nuits en garde à vue.
C'est pas top parce que les sièges ils sont durs.
C'est fait exprès. Olivier, je vous présente David Castello-Lopez qui a réussi à convertir sa dernière condamnation en travaux d'intérêt général. Chaque jour, il remonte pour nous aux origines d'une invention, d'un objet, et aujourd'hui, comme par hasard,
tout
vous avez
fait
choisi David.
Le gaz lacrymogène, c'est quand même un outil pas seulement de flic, mais en particulier de flic quand même.
Je sens que ça va être une chronique engagée. Olivier Pouls est avec nous. Aujourd'hui, c'est notre spécialiste gastronomique.
Je croyais que c'était les origines d'une expression. Là, c'est un plat.
Ouais. Ah oui, il vous a piqué votre sujet quelque part.
Oui, parce que c'est quoi?
Est-ce qu'en tant qu'ancien flic, vous aviez eu affaire au bœuf carotte à un moment ou jamais?
C'est-à-dire, j'en ai mangé du bœuf carotte, mais j'ai eu affaire à eux aussi.
J'y suis passé.
Bah alors, je vous apprendrai pourquoi on les appelle comme ça, et puis je vous donnerai aussi la recette tant qu'à faire du bœuf carotte. Bon, bœuf carotte qu'on mange.
Et puis Stéphane, son érudition nous enchante chaque après-midi, elle nous entraîne dans les coulisses de l'histoire, pas de France, pas du monde, l'histoire de la galaxie dans sa totalité. Une vision globale qui lui vient certainement de ses liens tissés jadis avec R2-D2, le droïde de Star Wars, qui fut son toy boy, on le rappelle, au tournant des années 80, si bien qu'elle est la seule journaliste à pouvoir s'exclamer sérieusement
« Métache, métaganiche, métiche », ce qui en martien signifie « Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir ».
Métache, métaganiche aussi, Clémentine Portier, quelle tête d'acte. Ravie de vous revoir. Quel est votre thème aujourd'hui?
Ah bah écoutez, voyez-vous, ici nous appartenons à des générations assez différentes, mais au moins je pense que Olivier, Stéphane Bern et moi, nous sommes de la génération Vidocq. Et savez-vous que Claude Brasseur disparu 15 jours avant le cinquantenaire des aventures de Vidocq? C'est la série télé qui fit sa célébrité et dont le premier épisode fut diffusé très exactement le 5 janvier 1971. Alors Vidocq, bien sûr, c'est le voleur devenu gendarme, à la fois flic et voyou, un de ces oiseaux rares qui sont passés d'un monde à l'autre. Typiquement un personnage pour Olivier Marchal dont les héros sont rarement de purs méchants ou de purs gentils, chez qui la réalité est toujours grise. Entre bien et mal, les frontières sont poreuses. Vidocq, c'est une sorte de synthèse à qui nos polars doivent beaucoup.
Vous êtes d'accord avec ça, Olivier Martial?
Tout à fait. C'est un parcours passionnant parce que détesté par les voyous, détesté par les flics. Enfin, il y a une espèce de schizophrénie qui était intéressante dans le personnage et qui n'a jamais été traitée dans les films qui ont été faits et qui sont des films qui sont passés à côté du personnage.
Ah oui, moi j'avais vu un Vidocq au tournant des années 2000 que j'en avais sorti assez...
assez perturbé.
Là, assez perturbé, oui, on est d'accord. Il y avait un problème de scénario même dans ce Vidocq.
Le comédien était sympathique.
Bah oui, le scénario un peu moins. Stéphane, vers 5h-10, ce n'est pas mes tâches, mes taganiches que nous dira Clémentine, mais attache ta ceinture, ma tâche. On jouera à Burn to be Alive, ce quiz où Clémentine adore flanquer une raclée quotidienne à Stéphane. Mais tout de suite...
Vous m'avez traité de tâche quand même.
Oui, mais finement, vous avez vu, je l'ai inclus dans une expression, ça passait comme une lettre à la poste. Tout de suite, découvrons le portrait de notre premier personnage cet après-midi, Alphonse Bertillon, un pionnier de la police scientifique.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il s'appelle Alphonse Bertillon. Il aurait pu révolutionner la crème glacée.
Il a préféré révolutionner la police. Il l'a fait aussi.
Et pas n'importe quelle police, la police scientifique dont il est considéré encore aujourd'hui comme le père fondateur. Stéphane Bern est droit dans ses bottes pour nous raconter la passionnante histoire d'Alphonse Bertillon.
Dans les films ou les séries policières américaines, Mathieu, une scène est devenue incontournable. Ce moment où les enquêteurs étudient la photo d'un suspect figé debout devant un mur blanc, ou plutôt un double portrait, l'un de face, l'autre de profil. Ces images portent un nom. On les appelle les mugshots. Et elles sont accompagnées d'une foule d'indications comme la taille du suspect, son nom, sa date de naissance et j'en passe. Si on a tous vu ces scènes, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est à un Français que l'on doit l'ancêtre de ce système d'identification. Notre personnage du jour, j'ai nommé Alphonse Bertillon. Bertillon a vu le jour à Paris en 1853, il a tout simplement révolutionné le travail des policiers. Mais ça lui a quand même pris un certain temps. Chez les Bertillon, alors que tout le monde y mène des carrières de scientifique, d'universitaire ou de médecin, Alphonse est le vilain petit canard. Le gamin rebelle qui commence par se faire virer de deux lycées pour insolence, puis un étudiant médiocre qui rate en beauté ses études de médecine. Bref, il est un peu la honte de la famille, la tâche. Et il a fallu que son père...
Vous ne le digérez pas, ça, Stéphane.
Non, je ne digère pas. Et il a fallu que son père pèse de tout son poids pour lui trouver un emploi à la préfecture de police de Paris. Et encore, c'est un tout petit poste. Alphonse n'entre pas du tout dans la maison comme enquêteur, mais comme commis aux écritures. Un boulot pas vraiment glorieux qui consiste à rédiger et à classer les dossiers des criminels. Mais il faut croire qu'Alphonse Bertillon n'attendait qu'une occasion pour se révéler, car c'est bien lui qui va trouver la solution au plus gros problème de la police française, incapable de disposer d'un système vraiment efficace pour identifier les criminels. À une époque où il n'existe pas de carte d'identité, pas de test ADN, pas d'empreinte digitale, il n'a pas vraiment de manière sûre de mettre un nom sur un visage. Pour les criminels un peu malins, il est donc assez facile de tromper les enquêteurs en changeant simplement de nom ou en se laissant pousser la barbe. Mais en 1879, Alphonse Bertillon entre en scène. Il n'est pas resté bien longtemps en fac de médecine, mais il a quand même appris deux ou trois choses. Et il a retenu quelques leçons de son grand-père, l'un des pères de la statistique moderne. Son coup de génie, c'est de croiser les deux, la médecine et les statistiques. En cours d'anatomie, Bertillon a appris qu'un squelette humain compte 222 os différents, chacun avec ses dimensions propres à un individu en particulier. L'écartement des yeux n'est jamais tout à fait le même, chaque oreille a un dessin différent, la largeur des mains change d'un individu à l'autre, tout comme la longueur de l'arête du nez ou bien la circonférence du crâne. Et si l'on croise tous ces éléments en prenant soin de relever plusieurs mesures anthropométriques avec un matériel très simple comme un compas ou un pied à coulisse, il devient possible d'identifier un individu de façon infaillible. Enfin, disons presque infaillible. Après quelques calculs, Bertillon estime qu'il y a seulement une chance sur 286 millions pour qu'on retrouve ces 14 caractéristiques à l'identique chez deux individus distincts. Le 15 octobre 1879, quelques mois seulement après son arrivée à la préfecture de police de Paris, Alphonse Bertillon présente son rapport au préfet de police, Louis Andrieux. Mais c'est un bide total. Andrieux le fiche dehors en le traitant grosso modo de cinglé obsessionnel. Bertillon va devoir patienter 3 ans avant de pouvoir tester son système grâce à l'arrivée d'un nouveau préfet qui lui donne 3 mois pour prouver que son système fonctionne en identifiant à coup sûr un récidiviste. Le 15 décembre 1882, Bertillon commence à mesurer les prévenus qui arrivent au dépôt de la préfecture. Deux mois plus tard, bingo, Bertillon confond un cambrioleur qui avait été relâché et qui vient à nouveau de se faire attraper. Sa carrière est lancée. Le policier va passer les 30 années qui suivent à étoffer le système Bertillon, le bertillonnage. Un procédé tellement performant que toutes les polices de la planète se mettent à l'imiter. En France, Alphonse Bertillon prend en 1893 la tête d'un service créé spécialement pour lui par le préfet Lépine, l'identité judiciaire. Petit à petit, les policiers sont formés pour prendre les mesures. On standardise le matériel, les fiches, les méthodes de classement, jusqu'à proposer un dispositif extrêmement efficace qui repose sur le mélange, qui n'a rien de savant, de trois éléments. Le premier, c'est une série de mesures anthropométriques dont je viens de parler. Le deuxième, c'est la photographie signalétique, le fameux double portrait de face et de profil. Et troisième, c'est ce que Bertillon appelle le portrait parlé, un résumé qui liste tout ce qui peut être utile à des enquêteurs pour lever les derniers doutes. Les grains de beauté, les tatouages, les taches de naissance, les cicatrices, etc. En mélangeant ces trois procédés, il y a de quoi convaincre n'importe quel juge qu'il a bien la personne recherchée en face de lui. L'outil policier devient outil judiciaire. Et le système Bertillon permet à la police d'accumuler les succès, comme exemple des plus célèbres, l'identification de Ravachol, anarchiste, meurtrier et grand poseur de bombes devant l'Éternel. Mais vous allez voir que Bertillon ne s'est pas arrêté là. Alphonse Bertillon s'est intéressé aux criminels, mais il s'est aussi penché sur les scènes de crime elles-mêmes. Et là encore, ce qu'il a mis en place a complètement changé le quotidien des enquêteurs. D'abord, c'est l'un des premiers à comprendre qu'il faut impérativement geler une scène de crime, c'est-à-dire la protéger grâce à toute une série de règles et de protocoles pour éviter de perdre des indices en marchant ou en se déplaçant. C'est lui aussi qui comprend l'importance de fixer l'image de la scène de crime en prenant toute une série de relevés et de photos qui permettent aux policiers de revenir plus tard sur tel ou tel détail sans avoir à se fier à leurs souvenirs ou à leurs notes.
Mais vous écoutez Stéphane, on a l'impression qu'il a tout inventé parce que tout ça paraît être le protocole standard aujourd'hui et avant lui, il n'y avait pas ça, il n'y avait même pas de prémisse.
Non, il n'y avait pas. En 1907, Bertillon invente même ce qu'on appelle le plongeur. C'est-à-dire un appareil photo fixé en haut d'un trépied qu'on place au-dessus du corps de la victime à près de 2 mètres de haut, ce qui permet de prendre une vue à 90 degrés strictement verticale et objective. Le cadavre est saisi dans la disposition exacte que la victime avait au moment de sa mort. Tout cela fait d'Alphonse Bertillon bien plus que le créateur de l'identité judiciaire. Toutes ces règles, toutes ces consignes que Bertillon a mises en place fondent tout simplement la science des affaires criminelles, la criminologie. Alors attention, Bertillon a commis des erreurs. Hein. Il s'est notamment enferré dans l'affaire Dreyfus en se risquant sur un terrain qu'il ne maîtrisait pas du tout, la graphologie. Et il n'a pas voulu admettre l'intérêt d'une autre technique d'identification, anglaise celle-ci, celle des empreintes digitales. Des empreintes digitales qu'il a fini par intégrer à son propre système, contraint et forcé, en 1902 seulement. Mais 107 ans après sa mort, Bertillon reste comme le père de la police scientifique, le grand pionnier qui a posé les bases d'une approche codifiée et rationnelle de l'enquête criminelle. Et le plus bel hommage rendu, c'est sans doute chez Conan Doyle qu'il faut le chercher. Dans Le Chien des Baskerville, Conan Doyle fait dire à l'un de ses personnages que Sherlock Holmes est le deuxième plus grand expert criminel d'Europe, et oui, deuxième seulement, derrière Alphonse Bertillon.
Cocorico.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Alors, pour continuer à parler d'Alphonse Bertillon, pour l'analyser scientifiquement, nous avons aussi un expert, l'acteur, réalisateur et scénariste Olivier Marchal avec nous cet après-midi à l'occasion, Olivier, de la diffusion sur TF1 de La Promesse, série dans laquelle vous incarnez un capitaine chargé d'une enquête compliqué, forcément, sinon ça ne durerait pas 6 épisodes en même temps. Il vaut mieux que ça soit compliqué.
Mais justement, dans cette mini-série La Promesse, Olivier, on voit le travail minutieux de l'enquêteur que vous jouez. Les méthodes pour faire avouer, pour confronter. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à Alphonse Bertillon un siècle plus tôt. Les techniques ont évidemment évolué, mais ce qui reste, c'est ce qu'a mis en place, au fond... Les procédés d'Alphonse Bertillon.
Oui, tout à fait. Quand on était à l'école de police, on avait ce qu'on appelait des cours de TPPJ, c'était les travaux pratiques de police judiciaire, avec des anciens commandants de police de terrain qui venaient pendant un an, et on faisait des reconstitutions comme ça de scènes de crime, avec toutes les techniques dont vous avez parlé. Donc, et on passait à la salle Bertillon pour faire la photo de la carte de police, faisait face profil dans la salle Bertillon, on s'asseyait sur la chaise où se sont assis moult criminels avant nous, tout, c'est assez rigolo. Quoi.
Mais ce qui est fou, c'est que Bertillon fait cette découverte incroyable, alors qu'au départ, il n'est ni scientifique, ni policier. Comment expliquer que personne n'a eu l'idée avant lui?
C'est ça que je ne comprends pas.
Oui, ça paraît fou.
Parce que même aux États-Unis, eux se sont inspirés aussi de Bertillon, même les Américains, nous, on n'avait pas trouvé pas de méthode d'investigation plus performante que les nôtres à l'époque.
Et pour revenir à la genèse, on ne peut pas dire qu'Alphonse Bertillon parvient facilement à s'imposer. La préfecture de police n'est pas vraiment convaincue au départ, vous l'avez raconté Stéphane. Oui. La plupart ne veulent pas entendre parler de ces méthodes. Ça montre que déjà à l'époque, c'est compliqué de faire bouger les lignes dans la police et il faut savoir s'imposer. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? C'est compliqué de faire évoluer des méthodes dans la police quand on est un jeune commissaire et on essaie d'innover?
Là aujourd'hui, moi ça fait longtemps que j'y suis plus, donc j'aurais pas la prétention de critiquer le système de l'intérieur. Après de mes copains qui sont toujours, c'est tout simplement très compliqué d'être flic aujourd'hui.
Oui, tout simplement.
D'arriver à travailler. Alors évidemment, il y a les méthodes qui étaient peu recommandables à une certaine époque, qui ont disparu heureusement. Alors bon, qui ont ressurgi ces derniers temps. Malheureusement aussi, parce que je pense que c'est l'époque est d'une violence incroyable et que le Covid aussi met tout le monde à cran. Bon, je pense que ça doit être très compliqué. Un jeune patron qui a une certaine idée de faire procéder à une enquête, ça doit être très compliqué avec tout le système hiérarchique qui est au-dessus de lui, d'arriver. Vous voyez, un patron aujourd'hui, on les forme, les commissaires. Nous, à mon époque, les commissaires, on se tutoyait, ils sortaient en boîte avec nous.
Aujourd'hui, il y a une séparation.
Ils planquaient avec nous, on allait dans les. Ouais, aujourd'hui, un commissaire, il met un costume, une cravate, il est dans son bureau.
Et il n'est pas sur le terrain.
Oui, c'est plutôt des technocrates. Même s'ils en ont envie, le système ne leur permet pas, quoi.
Bon, on va revenir aux flics, à nos grands flics de l'histoire, un peu les flics à l'ancienne. On parle d'Alphonse Bertillon en particulier, avec notre invité spécial tout l'après-midi, c'est Olivier Marchal sur Europe 1. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Des flics de légende au programme d'Historiquement Vôtre cet après-midi avec Stéphane Bern. On parle d'un flic de légende qui est un peu à l'initiative des premières techniques de police scientifique. C'est Alphonse Bertillon. On en parle avec notre invité Olivier Marchal.
Alors Olivier Marchal, on vous doit évidemment la réalisation de 36 Quai des Orfèvres, les séries télévisées Flic et Braco. Et depuis jeudi dernier, vous êtes à l'affiche de La Promesse, mini-série de TF1 en 6 épisodes, créée par Anne Landois, à qui l'on doit Engrenage. Vous pouvez encore rattraper les deux premiers épisodes, je le dis pour les auditeurs, mais la suite, c'est ce soir. Pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore vu, voici la bande-annonce.
Toutes ces petites filles qui disparaissent, qu'on retrouve jamais, ça fait peur.
C'est possible qu'on la retrouve jamais, Charlotte?
On va la retrouver.
Une gamine qui s'évapore sur une route, sans témoin. Ce mec ne fait pas d'erreur.
Comment on fait pour coincer un type qui fait pas d'erreur?
Tu veux savoir?
Je suis sûre que ce type a fait d'autres victimes.
Alors au casting, un casting d'enfer, Sophia Essaïdi, Laurent Deutsch, Guy Lecluse, et puis vous Olivier Marchal, vous incarnez le capitaine de police en charge de l'enquête de la disparition de cette fillette de 11 ans au lendemain de Noël 1999 dans les Landes. Il s'agit d'une enquête non résolue. C'est au fond, je me disais en regardant, c'est ce qui peut arriver de pire pour un policier. C'est des points de suspension, une enquête qui n'est pas résolue.
Surtout quand il s'agit de gamins comme ça. Après, moi, je me rappelle, j'avais un chef de groupe quand j'ai démarré, j'avais 21 ans, qui avait un dossier qui était aussi haut que la vitre là, qui nous sépare. Et ça faisait 15 ans qu'il de temps en temps. Alors, les affaires s'accumulent, donc on est obligé d'abandonner le dossier à un moment donné. Et lui, les week-ends, de temps en temps, il passait tout son week-end, il reprenait la procédure depuis le premier PV, il reprenait tous les interrogatoires pour voir où il y avait des contradictions dans les questions-réponses. Bon, mais c'est vrai que ça, c'était obsessionnel. Après, moi, mon personnage dans la série, il devient dingo parce qu'il a des deux petites filles, puis bon, on va pas tout révéler, non. Mais c'est vrai qu'il fout en, il fout en l'air toute sa vie. Je sais pas si des flics font peut-être jusque-là, là on est dans la tragédie de fictionnelle, mais c'est vrai que c'était un personnage intéressant à jouer, et c'était un plaisir... Voilà, que ce soit Sophia Essaïdi qui joue ma fille et qui la transmission, c'est une actrice magnifique et ça a été un tournage très très fort et je trouve que artistiquement c'est du cinéma à la télévision. Je trouve que Laure de Butler, la réalisatrice, a fait un travail esthétique formidable. Et comme vous l'aviez dit, s'il y a une distribution autour de moi, c'est même mes petites filles, enfin elles sont formidables, les deux petites actrices. Là. Je suis très fier d'être dans
cette belle aventure.
Cette belle aventure, franchement.
Olivier Marchal, on rappelle que vous avez quand même créé Braco et réalisé 36 Quai des Orfèvres, c'est déjà dans la catégorie culte, déjà. Oui. Est-ce que néanmoins, on peut, quand on est Olivier Marchal, avoir quelques jalousies, se dire, tiens, Engrenage, par exemple, je l'aurais bien réalisé Est-ce qu'il y a des séries comme ça qui vous font un peu rêver?
De toute façon, je l'ai dit déjà dans la presse, j'ai dit que ma série préférée, c'était Engrenage. Donc c'est vrai que quand j'ai su que c'était Anne Landois qui était à l'origine de La Promesse, déjà c'était un gage de qualité. C'est une série qui est très 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 bien produite, en plus qui a eu les moyens. Après c'est plutôt du côté des... Vous voyez, moi je suis jaloux de beaucoup de gens, hein. Je suis pas aigri, mais je suis très jaloux. Non mais quand je vois Les Misérables, par exemple, ce premier long métrage, je me suis dit, le mec qui a fait ça en premier long métrage, c'est un génie. Après, quand je vois Trou Détective, c'est évident que...
Première saison.
Non, alors moi, j'aime pas la première, et j'adore les deux, et la 3.
Ah bah j'ai même pas vu la 3, alors vous me donnez envie, là.
Ah ben la 3, elle est à tomber, quoi. La 3, c'est juste à tomber. Tous à Joinville. Allons voir Trou Détective 3. Non, mais... Voilà, mais ça, je ne suis pas aigri, mais ça m'arrive d'être très, très, très jaloux.
Il y a une chose, Olivier Marchal, c'est vrai que vous parliez d'une défiance que certains peuvent avoir envers la police, oui. qui est parfois décriée, oui. alors qu'en même temps, on est obsédé, on ne regarde que ça.
Bien
on
sûr.
Lit des polars,
bien
on
sûr.
Lit en littérature et ça marche. Au cinéma, on va voir des polars. C'est, notre société est un peu schizophrène.
Oui, mais je suis bien d'accord. Après, ce qui est dommage en France, c'est que voilà, là, on est dans un... la police, ils sont devenus vraiment les mal-aimés d'aujourd'hui. C'est alors qu'ils avaient reconquis un petit peu le public avec le Bataclan et tout ça. Là, c'est vrai qu'ils sont repartis dans un truc pas terrible et moi, ça me peine beaucoup parce que mais c'est très français aussi. C'est-à-dire que
on déteste ce qu'on aime ou on aime ce qu'on déteste.
Et puis comme le disait un copain flic, on a oublié un peu ce que voulait dire le terme obtempérer un peu en France. Ça veut dire que on critique beaucoup les flics, mais aujourd'hui un flic vous arrête n'importe qui. Moi, je vois des contrôles. Je dis, mais va te faire enculer. Enfin, on va passer les détails et tout. Alors que vous allez aux États-Unis, vous faites serrer en Espagne par la guardia civile, personne ne bouge. C'est-à-dire si personne ne bouge, je vais aller assez loin dans ce que je dis. Il n'y a pas faute, quoi. C'est-à-dire, alors après, il y a des flics qui évidemment se comportent pas bien, mais
heureusement,
il y en a un sur 50 000. Voilà.
Mais c'est vrai que ça vous a amené là où vous êtes aujourd'hui, c'est que vous avez commencé à regarder à lire des polars, à regarder des films.
Bon, on va parler de Borniche tout à l'heure, mais c'est celui dont j'ai lu tous les romans avec Le Taillantaire, Roger Le Taillantaire, qui a été un immense flic. Et puis évidemment, San Antonio, Frédéric.
Je sentais un petit côté San Antonio chez vous avec les aventures de Berrurier. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Et on embrasse très fort Alphonse Bertillon, Stéphane, on a fini d'en parler. Voilà.
Mais c'était bien.
Bisous, Alphonse.
Le Bertillonnage.
Bien sûr.
Ça vous pend.
À bientôt à Joinville-le-Pont.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Avec elle, les histoires même les plus compliquées sont toujours élucidées. Clémentine Portier-Kaltenbach nous entraîne aujourd'hui à la rencontre de Vidocq, devenu célèbre avec la série qui porte son nom. Une série qui n'est pas disponible sur Netflix pour ceux qui la rechercheraient, mais sait-on jamais.
Alors, le teaser de la série télé des années 70 disait la chose suivante. S'évader du bagne, se retrouver chef de la sûreté, accepter des missions policières et politiques de plus en plus importantes, mais se savoir menacer chaque jour d'être remis au fer en cas d'échec. Telle est l'incroyable et pourtant véridique histoire de Vidocq. Alors, en réalité, avec Vidocq, il faut vraiment faire le tri, parce que presque tout ce qu'on sait de lui, c'est grâce à ses mémoires. Et ses mémoires sont un tissu de vantardise. Mais on est obligé de s'en contenter parce que les archives de la préfecture de police de Paris ont brûlé en 1871. Alors, dès le départ, il ne cherche pas à se faire passer pour un enfant de Marie. Hein. Vidocq, ce n'est pas Jean Valjean, même si c'est lui qui va plus tard inspirer le personnage de Victor Hugo. Vidocq, ce n'est pas le gars qui vole un pain pour survivre et qui est vraiment une pauvre victime d'une société injuste. Non, pas du tout. Lui, c'est vraiment un sale gosse. Un original qui, dès l'enfance, aime se travestir, pique les vêtements de sa maman. Il est le fils d'un boulanger d'Arras, né en juillet 1775. Alors lui, il se sent pas du tout l'âme d'un futur boulanger et dès l'adolescence, il se rebelle contre le destin qui lui est promis. Alors il commence à chaparder dans la caisse de ses parents, puis il passe à la vitesse supérieure, il leur vole leur argenterie, ça ne devait pas être grand-chose, hein. Il parle de 10 couverts en argent parce que c'était quand même des boulangers, c'est pas l'argenterie de la grande-duchesse de Gerolstein. Hein. Alors il fait quelques jours de prison à la demande de son père puisqu'à l'époque on peut envoyer ses rejetons comme ça, c'est bien pratique, moi j'y pense parfois. Je dis ça à mes enfants, ah le bon temps des lettres de cachet, on pouvait envoyer ses enfants en tôle. Hein. Mais, donc, quand je disais, il passe à la vitesse supérieure, il leur vole 2000 francs. Et il s'enfuit avec le projet de partir en Amérique. C'est déjà le rêve qu'il caresse. Hein. On est juste à l'aube du 19e. Bon, finalement, lui-même se fait piquer tout ce qu'il a volé à ses parents. Donc, ce ne sera pas l'Amérique, ce sera Dunkerque, Calais, Ostende, Lille. Et c'est là le début d'une existence extraordinairement aventureuse d'un jeune homme qui va faire tous les métiers. Il devient allumeur de lampions. Il nettoie les cages des singes pour des bohémiens. Et puis, il aide un négociant ambulant qui vend des élixirs bizarres censés soigner les corps aux pieds. Alors, à 17 ans, il a déjà fait toutes sortes de métiers, tout naturellement. Où atterrit ce genre de tête brûlée, hein, qui aime en découdre, il peut se retrouver que dans un régiment ou en prison. Alors, dans un premier temps, il s'engage dans le régiment du duc de Bourbon. Comme c'est un type extrêmement énergique et batailleur, et il est malin, il est bon, il devient caporal. Et puis il se rebelle parce qu'il se bat contre un officier supérieur. Enfin, là aussi, tout ça est assez logique. Du coup, il déserte parce qu'il ne veut pas passer en conseil de guerre. Bon, et puis il passe dans les troupes ennemies. Et là, il raconte, alors là, c'est Vidocq et ses élucubrations, qu'il ne voulait pas se battre contre l'armée française. Donc il se contente dans l'armée ennemie de former des soldats au métier des armes. Là, on pense un peu, on voit Vidocq fanfan la tulipe, c'est-à-dire vraiment le querelleur, bretteur, sympathique. Bon, il fait moult séjours en prison dont il s'évade systématiquement. C'est un peu un genre de vaujour. On ne peut pas le tenir en prison. Donc, Vidocq, magouilleur, chapardeur, querelleur, bretteur, eh ben, il finit par être rattrapé par la patrouille et il va passer 6 longues années au bagne entre Brest et Toulon. Et comme on sait, c'est justement sa parfaite connaissance du milieu qui lui vaut en 1811 d'être mis à la tête d'une brigade spéciale constituée d'anciens forçats. En 1812, il devient donc chef de la sûreté instituée à la préfecture de police de Paris. Alors, ils sont logés rue Sainte-Anne, pas loin de la Bibliothèque nationale, là, à Paris, pas loin de la rue de Richelieu et de la Comédie-Française. Et c'est donc une bande d'anciens coupe-jarrets qui, entre 1812 et 1827, protège les Parisiens des coquins. C'est assez extraordinaire. Alors, il est très consciencieux, Vidocq. C'est intéressant de lire ses mémoires parce qu'il note soigneusement toutes ses statistiques. Pour la seule année 1817, 772 arrestations, s'il vous plaît. Nature des vols, à la détourne et au bonjour, à la tire et au filou, à la gêne et au flouant. Objet des délits, rampe enlevée, plomb dérobé, 20 réverbères pris rue Fontaine au Roi. Hein, on voit que c'est une typologie des actes délictueux qui n'a pas grand-chose à voir avec celle de notre époque. En tout cas, ce qui nous plaît chez Vidocq, ce sont ses mille vies, son énergie, sa débrouillardise, ses évasions, son art du déguisement, son côté filou, chafouin. C'est cet homme qui sans cesse oscille entre sortie de route et droit chemin. C'est pas un rond de cuir de la police, c'est pas un fonctionnaire, Vidocq. Et les vicissitudes de la vie ont fini par faire de lui un gars bien. Et puis il est aussi le premier détective privé de notre histoire et le père du roman policier. Il a inspiré, je le disais tout à l'heure, Jean Valjean a eu Hugo, mais c'est aussi lui qui inspire Vautrin à Balzac, Alexandre Dumas père, Jacqual dans les Mohicans de Paris. Alors vous voyez, face à l'inspirateur d'une telle série noire, hein, vous conviendrez que les Maigret, Nestor Burma et Outre Navarro peuvent aller se rhabiller. C'est des poulets trop bons, presque trop beaux pour être vrais, auxquels, pour ma part, j'ai toujours préféré les flics entre chien et loup à la Vidocq que nous propose le cinéma d'Olivier Marchal.
Bravo,
merci.
Merci Clémentine Portier-Calder. Il a jamais replongé Vidocq?
Non. Oui, mais enfin, vous savez, je pense qu'il avait eu sa dose, parce qu'avant d'être envoyé au bagne, il avait fait de longues peines de prison.
Oui, oui. Ouais. Puis c'était une force de la nature, ouais, surtout. Hein. C'était un sacré bestiau, hein, je crois. Mmh.
Ça fait partie de ces comètes que l'on voit surgir dans notre histoire et dans tous les milieux. Mmh. Et lui, c'est vraiment ça. C'est tout le monde n'a pas l'étoffe pour le. Il faut pas.
Stéphane, quand même, c'est un bon acteur maintenant. Mmh. Hein, il joue.
Oui,
en
mais
plus,
enfin, Stéphane, je le vois un peu dans Vidocq.
Vidocq, ça aurait de la gueule. Hein. Moi, je vois déjà les affiches un peu partout dans Paris. Vivement que les cinémas rouvrent. Clémentine.
Pour le moment, je n'ai tourné que pour la télé.
Oui, mais justement, la petite lucarne bientôt. Le grand écran, Stéphane. Merci Clémentine. Vous restez avec nous, Olivier Marchal. Dans votre carrière de flic, vous avez dû être confronté au pire, la haine, la violence, la cruauté, l'absence de scrupules et de remords. Mais vous êtes aussi donc prêt à arbitrer le quiz sanglant qui oppose chaque après-midi Stéphane Bern à Clémentine Portier-Kaltenbach.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Quand l'été dernier, j'ai expliqué à Stéphane Bern le principe du quiz, à savoir qu'il serait chaque jour confronté à Clémentine, une rivale qui essaierait de le battre sur son propre terrain, celui des connaissances historiques, il lui avait lancé
« Vous n'y arriverez jamais, vous êtes une femme !»
79 défaites plus tard.
Attendez.
79 défaites plus tard.
Non, je me souviens très bien.
C'était hier. Toi,
j'adore Stéphane parce qu'il essaie de se justifier.
Il essaie tout le temps. Il n'y arrive jamais forcément.
Oui,
personne
parce
ne
que
le croit.
Des gens que,
oui, mais
des
non, les gens me font confiance. Les gens savent que je suis quelqu'un de très honnête. Oh, je suis suisse. 79 défaites plus tard.
Vous voulez qu'on parle de l'honnêteté suisse?
Vous étiez la soirée à Joinville. C'est ça.
Stéphane, vous devez vous rendre à l'évidence. La mère Portier-Kaltenbach est coriace. Courage, jouons ensemble à Berne Pugliela et peut-être, qui sait, un miracle se produira aujourd'hui. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Vous avez droit à un bonus aujourd'hui en la personne d'Olivier Marchal. Oui. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à chercher dans son regard la bonne réponse. Vous connaissez, Stéphane, le Triceratops? Et on fait des questions faciles pour Stéphane, genre niveau Jurassic Park.
Cherchez bien dans mon regard.
Cherchez bien dans le regard d'Olivier Marchal.
Cherchez longtemps.
Alors, vous connaissez le Triceratops, Stéphane? Non. Comment ça, non? Pas quand même. Vous connaissez même pas le Triceratops? Ce célèbre dinosaure herbivore à trois cornes qui a vécu.
Personnellement, je ne l'ai pas connu.
Vous avez vu Jurassic Park?
Oui, mais personnellement, je ne l'ai jamais connu.
D'accord. Il a vécu il y a 66 millions d'années en Amérique du Nord. Eh bien, en 1993, Spielberg, qui a réalisé Jurassic Park, dans lequel il y a cette fameuse scène avec le Triceratops, se prend en photo aux côtés de ce Triceratops, évidemment en carton-pâte, je ne sais pas en quelle matière il était fabriqué, avec un fusil, pour faire une petite blague. Et cette photo, il la publiera bien des années plus tard sur Facebook, pour faire une blague, quoi. Résultat, il s'est fait copieusement insulter. Vrai ou faux ?
Ça m'étonne de Spielberg d'aller sur Facebook.
Votre réponse, Stéphane. Votre réponse. Regardez les yeux d'Olivier Marchal. Il a la réponse. Ne regardez pas les yeux d'Olivier Marchal. Donnez-nous votre réponse.
Non, je dirais non.
Vous avez perdu.
Et vous avez perdu. C'était oui, mais oui. Ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il y a même un internaute qui a écrit dans les commentaires: pour la peine, je ne regarderai plus vos films. Ça en dit long sur notre époque. Question numéro 2, Clémentine, ne vous énervez pas. Parlons de Goya, mais pas de Chantal, l'illustre interprète de Fandi Panda, mais de Francisco de Goya, peintre espagnol considéré comme le père de l'art moderne. S'il faisait votre portrait et qu'il ne faisait pas votre main, vous voyez, il faisait votre portrait, mais vous ne mettiez pas votre main sur le portrait, vous aviez une ristourne. Vrai ou faux ?
Oui, je pense que c'est bien possible parce que bien souvent, certains. Vous voyez, Van Dyck est un spécialiste des mains. Il fait
on
des mains.
On parle pas de Van Dyck, on parle de Goya.
Oui, mais écoutez, n'hésitez pas. J'ai pas le droit de faire une petite incise dans mon propos. Bon, alors, je dis oui, parce que c'est comme ça.
Vous avez
gagné.
Et oui, témoin, bah voilà. Le portrait de Bernardo de Iriarte en 1797. Il vient d'être nommé ministre de l'Agriculture, comme vous vous en souvenez, Stéphane, vous étiez au pont qui a suivi. Il le peint avec, dans la main droite, un livre en signe d'érudition, mais pas de deuxième main. À la demande du ministre, il sait que Goya facture chaque main une main en moins. C'est le prix du tableau qui est en moins à l'arrivée. Donc finalement, voilà, il était un peu rapia, il a économisé une main. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Si on appelle les corbillards ainsi, vous connaissez les corbillards?
Oui, ça vient de Cormeil.
Ça vient de Corbeil, de la ville de Corbeil.
J'ai comme l'impression que Stéphane a grillé un petit peu la question. Alors attention Stéphane, on va faire comme si vous n'aviez rien dit.
Oui.
Vous connaissez les corbillards. On appelle les corbillards ainsi. Ah, mais ici, Olivier, vous allez faire de grands acteurs.
C'est un bonheur de venir le matin chez vous.
L'après-midi même. Vous avez
oui, l'après-midi, pardon.
Vous avez trompé.
Oui, mais
on a commencé sur le
champagne
Olivier,
là. Voilà,
et vous ne savez plus quelle heure il est. Le corbillard. On l'appelle ainsi parce que durant le Moyen-Âge et les grandes épidémies de peste, on mettait les cadavres dans de grandes corbeilles. Vrai ou faux?
Non, ça vient de la ville de Corbeil.
Absolument.
Où on mettait dans les barques les corps qui remontaient la Seine.
Vous avez gagné.
À situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, non pas un. Mais deux points pour Stéphane. Parce qu'il a donné la réponse exacte. Le corbillard fait référence au corbeillard des embarcations qui naviguaient sur la Seine, par exemple à Corbeil-Essonne, d'où le nom. On faisait arriver avec des céréales, du vin et du bois. Les corbeillards ont été réquisitionnés pendant les épidémies de peste pour les transporter les cadavres, d'où le nom corbillard. Question numéro 4. Attention Clémentine, il va falloir faire fort. Alexander Graham Bell est connu pour avoir... Si on met les controverses de côté, il est connu pour avoir inventé le téléphone. Mais ce qui est certain, c'est qu'on lui doit aussi le téléphone sans fil. Vrai ou faux? Cherchez la réponse dans les yeux d'Olivier Marchal. Il va bien vous guider.
Il était déjà pas très au point sur le tricératops.
Ah si, ah non, là c'est méchant, Clémentine. Même Corbeil, je le savais.
Ce genre de truc l'autre jour, je me suis fait avoir là, avec des missiles, un programme de missiles avec des pilotés par des pigeons avant la Première
y
Guerre
y avait
mondiale.
Des pigeons dans les
missiles. Donc que Graham Bell ait envisagé un projet de téléphone sans fil avec deux pots de yaourt, boîte de conserve.
Je vous aide un peu.
Oui.
Il n'a rien envisagé du tout. Hein. Alexander, c'est un homme d'action.
Mais il a inspiré.
Non, plus que ça.
Il a inventé,
c'est-à-dire qu'il a fabriqué le premier téléphone sans fil. Tel est le sens de ma question.
Ouais, c'est ça.
Vrai ou faux?
Ça, elle ne sait pas.
Je dirais non.
Vous avez perdu.
Bien joué Stéphane, vous avez gagné. C'est bon, notre deal a fonctionné. Je vous ai mis sur la mauvaise piste.
Il lui fait des chèques avant d'arriver dans le studio.
Si
je vous ai vu échanger des bifetons tous les deux.
Écoutez plutôt la réponse.
Chèque ou bifeton?
Nous sommes là, finalement, qui gagne, qui perd, peu importe. Le tout, c'est qu'on en sorte grandi.
Et qu'on rigole.
Et nous en sortons sacrément grandi. Vrai, c'était le photophone, développé en 1880, basé sur un système de miroir exploitant la lumière du soleil. Le son transitait sans le moindre fil. Petit souci, la portée n'était que de 200 mètres et il fallait qu'il fasse beau.
Ah, oh, c'est magnifique.
Qui remporte ce quiz?
C'est Stéphane.
C'est Stéphane qui remporte. Bravo Stéphane. Vous avez remporté le quiz sans mon aide.
Et en plus, c'est pas vraiment un quiz d'histoire. Parce que ça parlait de Facebook, si vous voulez.
Mais Facebook est dans l'histoire maintenant, Stéphane. Vous savez que Mark Zuckerberg est encore plus riche que vous. Il est entré dans... C'est fou. On est vraiment entré dans une autre époque.
Non, mais moi, à côté, je ne suis rien.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Cet après-midi dans Historiquement Vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter, j'ai choisi le thème parce qu'il était intéressant, mais aussi dans le but parfaitement assumé d'entendre Stéphane Bern s'écrier pour la première fois de sa paisible existence.
22, v'là les flics.
Sincèrement, Stéphane, est-ce que dans votre vie, un jour, peut-être dans l'adolescence, vous avez serré les fesses en croisant une patrouille de police, si vous voulez? Non, c'était innocent comme ça. Pardon, je reformule.
C'est impossible.
Olivier Marchal, vous avez déjà interpellé Stéphane Bern.
Ce sont d'honorables pères de famille.
Bien sûr. Non, Stéphane, vous n'avez jamais eu de démêlé avec la justice.
Jamais.
Jamais.
Jamais. Une fois, j'ai été quai des Orfèvres. parce qu'une plainte avait été déposée contre moi parce que je, dans une émission, j'avais dit une chose désagréable sur une animatrice.
Vous aviez dit quelque chose de...
Oui, oui. Mais
vous, chose... un sujet verbe, un compliment, vous aviez dit quelque chose de désagréable.
Une chose désagréable sur une animatrice qui m'a attaqué au pénal. Et dans ce cas-là, oui, c'est la première fois de ma vie où j'ai été devant un juge d'instruction et j'ai été témoin assisté. Enfin, j'ai été, voilà, j'ai été blanchi.
Pareil, de... la prescription, on embrasse... Pour continuer, Stéphane...
C'était bien d'elle qu'il s'agissait.
C'est vrai, j'ai dit ça complètement au hasard, Stéphane, je suis désolé.
C'était bien d'elle qu'il s'agissait.
J'en ai pas d'être venu.
Non, mais laissons.
Olivier Marchal, notre invité, ce soir sur TF1.
Avec nous cet après-midi, le comédien Olivier Marchal, plus que comédien, parce qu'il est comédien, mais il est aussi réalisateur, à l'affiche de la mini-série La Promesse, dont les épisodes 3 et 4 sont diffusés ce soir à 21h05 sur TF1, en partenariat d'ailleurs avec Europe 1.
Je tiens à le souligner. On a quasiment réalisé un peu le truc.
Non. On est complices en tout cas. 22 là les flics, donc, c'est le thème qui réunit trois grands flics de l'histoire cet après-midi. Après Alphonse Bertillon. Et la naissance de la police scientifique, je raconte un
moi,
autre grand
moi,
nom.
Je veux bien venir tous les jours chez vous.
Je vais servir du grand banditisme.
Vous faites un effet, Stéphane.
Roger Borniche. Oui. Et plus proche de nous, tellement proche qu'il est à côté de vous d'ailleurs. Vous nous brosserez, Mathieu, le portrait. Taquin, mais pas trop,
non.
Parce que vous tenez à votre dentition de notre invité Olivier Marchal.
Ouais, vous savez, c'est mal me connaître, Stéphane. Au contraire, vous savez ma bravoure lorsque l'objet de mon portrait est présent face à moi en chair et en os. C'est là que je suis le plus corrosif, en fait. D'où mon portrait à l'acide d'Olivier Marchal qui sera divisé en deux parties. Un, Olivier Marchal, le meilleur flic de France. Deux, Olivier Marchal, le meilleur cinéaste de France.
Vous oubliez, Olivier Marchal, le meilleur acteur de France.
Autant pour moi, je le rajoute tout de suite, monsieur Marchal, tout de suite. Et n'oublions pas nos chroniqueurs, Stéphane, qui eux aussi sont les meilleurs, peut-être pas de France, mais ils sont très bons aussi à leur manière. David Castello-Lopez, qu'est-ce que vous faites là?
Je suis là tous les jours, peut-être pas remarqué. Je vais vous parler, je vous parle chaque jour des origines de quelque chose, d'un objet, d'une tradition, et là c'est la tradition d'utiliser du gaz lacrymogène.
Une belle tradition.
Une belle tradition.
Olivier, nous écouterons la chronique gastronomique d'Olivier Poul, ce moment de l'émission où on peut entendre Stéphane Bern prononcer des phrases aussi incongrues que...
Vous beurrez le moule ou vous mettez du papier sulfurisé?
Certainement un langage codé du côté de Joinville-le-Pont. Olivier, aujourd'hui, vous aussi, vous êtes dans la thématique.
Deux chroniques pour le prédune, puisque je vais en même temps piquer un tout petit peu la thématique...
De mes expressions,
l'expression
les
bœufs carottes, d'où ça vient, et puis le plat, évidemment, le bœuf carotte, mais il y a une liaison entre les deux.
Mais c'est bon, au moins, le bœuf carotte.
Mais bien sûr que c'est bon.
Ça a un intérêt. Si ce soir je décide de faire un bœuf carotte, ça va avoir du succès.
Alors si vous le faites, je sais pas, mais si moi je le fais, oui.
Quelle ordure. Enfin, ça sera le mot de la fin avec évidemment Stéphane Bern. Prendre la mouche.
Oui,
d'où vient cette expression?
Oui, c'est ça. Pourquoi, quand on se vexe, on dit qu'on prend la mouche?
Le bateau mouche?
Vous verrez, écoutez, soyez un peu patient quand même.
Mais je le suis. Tout de suite, partons à la rencontre de notre deuxième grand flic du jour, l'homme aux 567 arrestations. Stéphane nous raconte le destin d'un grand flic français, Roger Borniche.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il est entré à jamais dans l'histoire en juillet 2020. Il était entré dans la police en 1943 à l'âge de 24 ans. Stéphane Bern nous raconte la longue carrière de Roger Borniche, un flic pas comme les autres.
Si Alphonse Bertillon a bel et bien changé en profondeur la police, il est resté assez éloigné du terrain. Avec Roger Borniche, en revanche, on fait difficilement plus proche du quotidien d'un policier d'élite dans la France de l'après-guerre. Borniche, qui s'est éteint en juin dernier, à l'âge respectable de 101 ans, est l'incarnation même du grand flic des années 50 et surtout l'homme qui a pulvérisé les records d'arrestation de son époque avec pas moins de 567 truands menottés par ses soins. Ce qui est d'ailleurs amusant pour un homme qui n'avait pas du tout prévu d'entrer dans la police. La police, c'est pour Borniche, né à Paris en 1919, d'un père peintre en bâtiment, pour ainsi dire un accident. À 17 ans, Borniche n'avait encore rien montré de ses talents d'enquêteur, mais il avait déjà cette espèce de gouaille de titi parisien qu'il va garder toute sa vie au point de tenter d'en faire son premier métier, bien loin des commissariats. Ses premiers sous, Borniche les gagne sur les planches comme comique troupier et chansonnier. Pendant quelques années, on peut régulièrement venir le découvrir sur la scène du Caveau de la République, un cabaret du boulevard Saint-Martin à Paris. C'est loin d'être du temps perdu pour lui. Tout cela lui permet de fréquenter le monde de la nuit et de se faire un réseau qui lui sera précieux des années plus tard. Mais voilà, quand Roger Borniche a 20 ans, la guerre éclate. 3 ans après, les Allemands occupent Paris et en 1943, on lance le STO, le service de travail obligatoire. Pour un jeune homme, le STO signifie passer des mois dans les usines allemandes, à moins de trouver une bonne raison de rester en France. Et voilà comment Borniche devient policier à 24 ans, avec une mission, repérer les cambrioleurs parisiens. Mais servir Vichy ou l'occupant, très peu pour lui. Borniche démissionne de la police après quelques mois avant de retrouver la PJ en 1944, après la libération. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du boulot, hein. Dans l'époque un peu trouble de l'immédiate après-guerre, toute une série de bandes de truands écument un pays en pleine reconstruction. De drôles de gangs, souvent, avec de drôles de membres aux drôles de parcours. Le plus célèbre, c'est le gang des tractions avant. Du nom des célèbres Citroën que les truands utilisent pour dévaliser des commerces, des bars, des banques ou des boîtes de nuit, avant de filer sur les chapeaux de roue, quitte à laisser derrière eux quelques cadavres pleins de trous. C'est pittoresque, le gang des tractions avant. On y retrouve aussi bien des résistants ou d'anciens déportés que des collabos notoires, comme Abel Danos, dit le Mammouth, ou Pierre Loutrel, dit Pierrot le Fou. Lui, c'est le chef, un ancien serviteur de la Gestapo française, reconverti in extremis dans la résistance toulousaine en 1944, lorsque le vent a tourné. Autour de lui, on retrouve des anciens maquisards, comme Joey Attia, passé par le camp de Mauthausen. Et puis, il y en a d'autres, des grands truands comme Émile Buisson, qu'on surnomme Mimille, ou René Girier, dit René Lacanne, qui boite après avoir pris une balle dans la jambe. Vous savez, René Lacanne, c'était l'amant de la princesse Antoinette de Monaco. Pour le mariage de Régnier et Grasse, il fallait garder les bijoux près de soi. Hein. Donc oui, en 1956, non, je vous assure. Oui. Beaucoup se sont connus dans les bataillons disciplinaires d'Afrique, les BADDAF, ce sont des hommes violents, des durs, c'est pas des enfants de cœur. C'est exactement à eux que s'attaque la Sûreté Nationale et plus précisément la Brigade de Répression du Banditisme, la BRB, à laquelle participe Roger Borniche. Mais alors qu'il affronte des hommes qui n'ont pas froid aux yeux et qui n'hésitent pas à faire feu, Borniche se fait une spécialité. Il n'est jamais armé.
Mais comment ça ?
Son truc, c'est pas la confrontation, c'est le renseignement. Patient et méthodique, l'inspecteur Borniche a ses indics. Il recoupe, trie, infiltre, croise les informations et joue sur la surprise pour arrêter sa cible en faisant le maximum pour éviter un bain de sang. Plus tard, il sera d'ailleurs l'un des premiers à critiquer l'opération qui coûta la vie à Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1 abattu dans sa voiture à bout portant en 1979. Du gâchis pour Borniche, qui parlera même d'assassinat. Non, Borniche, son truc, c'est d'y aller en douceur. Quand il est prêt, tout se passe calmement, ou presque. Avec Émile Buisson, par exemple, un truand extrêmement violent, la longue enquête de Borniche se termine dans un restaurant de Normandie, près d'Évreux, le 12 juin 1950. Accompagné du commissaire Gillard et de sa propre femme, Martine, Borniche s'installe à une table en tournant volontairement le dos à Buisson, qui va du comptoir à la cuisine. Au moment où Buisson finit ses fraises à la crème et attaque son café, Borniche se lève en faisant mine d'aller passer un coup de fil, passe derrière Buisson et le ceinture. C'est Martine, son épouse, qui n'est absolument pas policière, hein, qui passe les menottes au malfrat, fait comme un bleu. C'est encore par surprise que Borniche interpelle René Lacanne, que Borniche arrête tout simplement dans la rue, après l'avoir pisté jusque dans un cinéma du quartier de l'Opéra, où le bandit s'était fait une toile. Les deux hommes vont d'ailleurs avoir une drôle de relation par la suite, faite d'estime et de respect. Ils ont aussi un destin presque commun. Emprisonné plusieurs années, rangé des bagnoles, René Lacanne se fera romancier à sa sortie de prison. Roger Borniche va faire exactement la même chose. Après avoir quitté la PJ en 1956, à 35 ans exactement, il ouvre un cabinet d'enquête privé, mais se lance surtout dans une carrière littéraire prolifique, avec 28 romans à succès, tous plus ou moins inspirés des affaires sur lesquelles il a travaillé, et traduits en plus de 20 langues. Vous ne les avez peut-être pas lus, ces romans, Mathieu. Mais non. Vous en avez forcément vu une des adaptations au cinéma, comme Flick Story avec son ami Alain Delon, René Lacanne avec Gérard Depardieu, ou L'Indique avec Daniel Auteuil, qui raconte sa propre vie. Des classiques qui ont fait entrer un peu plus Roger Borniche dans la culture populaire, comme l'incarnation par excellence d'un grand flic, avec des méthodes à part, mais surtout, un homme d'honneur, acteur et témoin d'une époque révolue.
Europe 1, historiquement vôtre.
Lui aussi est passé de la police au polar. Olivier Marchal nous accompagne cet après-midi. On continue de parler de Roger Borniche avec vous dans un instant, mais j'aimerais déjà vous poser une petite question. Vous avez eu cette phrase, Stéphane, lorsque vous revenez sur cette époque du gang des tractions avant. L'époque est dure et violente, les braquages sanglants, mais il faut bien reconnaître une chose, c'est pittoresque, le gang des tractions avant. Mais ça, c'est avec le recul de l'histoire qu'on dit c'est pittoresque. À l'époque, quand on le vit, ou j'imagine les flics de l'époque, trouvaient pas ça pittoresque du tout.
Moi, j'avais commencé à travailler sur un film qui était sur la montée du banditisme entre 1943 et 1947, où justement, je parlais de cette brigade anti-agression qui avait été créée par d'anciens résistants aussi, de ça, pour lutter contre... Il y avait même... C'est-à-dire, les flics avaient des tractions qui étaient moins puissantes que celles des voyous. Oui. Donc, il y avait un flic qui était spécialisé, il trafiquait les moteurs, la préfecture de police. Montent en puissance. Non, mais c'est une histoire... c'est un moment de l'histoire passionnant.
Parce que, si vous voulez, vous aviez dans les bandits, comme dans les policiers, à la fois d'anciens résistants et d'anciens gestapistes. Oui. Donc, c'était... Ou d'anciens à la fois d'anciens déportés qui étaient revenus, et puis des maquisards. Donc c'était un mélange des deux côtés. Oui. Mais tous se connaissaient souvent.
Mais vous avez l'histoire de ce... Mon film démarrait là-dessus, de l'inspecteur Ricordo, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui était dans un bar. Et justement, déboule la bande de Pierrot le Fou, de Pierre Loutrel, avec Bouche Sèche, en fait, tous ces mecs qui travaillaient rue Lauristan, qui collaboraient avec les Allemands. Donc, ils essaient de racketter le patron du bar. Lui, il intervient en tant que flic, Ricordo. Eux, ils sortent la Ousva, ils s'y disent, voilà. Ils l'emmènent avec eux en balade. Là, je crois que c'est Loutrel qui lui tire une balle. Il est assis à l'arrière, il lui tire une balle dans le ventre. Et Ricordo était assez costaud. Il arrive à ouvrir la portière. Vous savez ça, vous ne savez pas, non,
non.
Il s'éjecte de la voiture. Il s'arrête en voiture, il lui passe dessus avec la traction, il repasse dessus, lui réussit à rouler dans un fossé, ils descendent, ils lui mettent une balle dans la gorge, et c'est les maquisards qui interviennent et qui les font fuir. Et Ricordo s'en est sorti. Voilà. Et moi, l'histoire de mon film démarrait là-dessus, c'est-à-dire le mec revenait un an plus tard.
Un film qui a été fait ou pas?
Non, j'ai travaillé dessus, un film trop cher, ça s'appelait Paname.
Oui, mais alors,
c'était sur l'histoire de Paname.
Je vais vous dire quelque chose, Olivier, que vous ne pouvez pas dire vous-même, mais maintenant, avec le succès de Bronx sur Netflix, rien ne sera trop cher
parti.
Pour vous.
Oui.
Et vous allez pouvoir produire ce que vous voudrez, il y aura même des tricératops dedans s'il le faut.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Pour la première fois de sa vie, Stéphane a eu l'opportunité cet après-midi de s'écrier 22, v'là les flics, Stéphane, comme si vous aviez peur de croiser une patrouille de police qui ne vous est jamais arrivée, car c'est notre spécial grand flic de l'histoire. On parle de Roger Borniche avec Olivier Marchal, que l'on retrouve ce soir en tant qu'acteur dans la série La Promesse, réalisée par Laure de Butler, dès 21h05 sur TF1. On imagine, Olivier Marchal, vous avez l'air passionné par ce que racontait Stéphane, vous connaissez très bien Roger Borniche, vous avez vu ses adaptations, peut-être lu ses livres même.
Oui, quand j'étais jeune, oui, j'en ai lu pas mal. Oui. C'est un des flics qui m'a donné envie d'être flic, avec Frédéric Darson Antonio. Voilà, et j'ai travaillé avec mon premier chef de groupe qui s'appelait Gaston Genuini, qui était un corse, un costume trois pièces et pompe vernis quoi, à l'ancienne, et qui avait travaillé avec Borniche.
Mais non, quand il dit, par exemple, 567 truands menottés, aujourd'hui, ça a un sens ou de menotter des truands et...
de comptabiliser?
Oui,
Vous avez fait un compte de tout ce que vous avez arrêté?
Pas du tout. Pas du tout. Moi, je n'ai jamais fait de compte, non. Après, moi, j'ai été, à part quelques cas vraiment d'ordures, de monstres qui font des choses ignobles, quand vous avez affaire à des casseurs ou des braqueurs et tout, quand vous déboulez à 6h du matin... vous pétez l'appartement, que le mec, il est comme je l'ai mis dans 36, il est en slip, en train de boire son café avec sa femme qui donne le biberon au bébé, et puis il y a la petite fille de 8 ans qui pleure, qui hurle parce que son papa est parti à la menotte dans le dos. On n'est pas très très fiers, quoi. Même après, c'est les braqueurs, c'est les mecs. Donc nous, on essayait toujours d'arranger des coups. Même si on trouvait de l'argent, on en laissait toujours à la famille. Mais on a jamais tiré beaucoup de gloire. C'était l'aspect du travail, moi, qui me plaisait pas. Ça, c'était d'envoyer quelqu'un en prison. Mais je suis très sincère quand je dis ça. Alors les planques, les filoches, le côté tribal, les flics, les sorties, les boîtes de nuit, les boîtes à putes, les machins, tout ça. Bon sang, évidemment, c'était
tout
ça, il faut le
tout a été c'est d'abord, les boîtes sont fermées.
Il n'y a plus joint. Je vous l'annonce.
Non, mais moi, pardon de parler de moi deux secondes. Mais moi, j'habite Pigalle, comme vous le savez.
Je le sais.
Oui. Et que toutes les ça a été transformé en crèche.
Vous le déplorez.
Oui, d'une certaine manière, parce que vous savez, elle gardait les clés. Mais non, mais vous pouviez. Mais non, mais elle gardait les colis.
C'est Scoop sur Scoop, bien sûr.
C'était des points relais à l'époque.
Et oui. Et oui, ça, on l'oublie trop. On l'oublie trop.
Non, mais c'est vrai.
Plus sérieusement, Stéphane. Heureusement que je suis là pour apporter un peu de sérieux à cette émission, quand même. Est-ce que pour être un bon flic, il faut réussir à. Comme certains médecins, on dit que les médecins parfois réussissent à complètement mettre, comment dirais-je,
de côté
ce qu'ils voient, les horreurs qu'ils peuvent voir dans leur métier, perdre un patient par exemple. Ouais. Est-ce que les flics aussi doivent faire ça ou au contraire ne doivent pas le faire pour rester humains? Comment vous le viviez en tant que flic à l'époque?
Mon chef de groupe m'avait dit, si tu veux arriver à faire ce métier correctement, il faut laisser les valises pleines au bureau, il ne faut pas rentrer avec à la maison. Et moi, c'est vrai que je ne pouvais pas me débarrasser des images, de la douleur, du chagrin, des larmes, de la douleur des familles, mais même parfois des auteurs. Hein, je me rappelle d'un mec qui avait fait un crime passionnel, qui était cocu. Il avait attendu sa femme avec un hachoir à viande. Il l'avait découpé. Non, mais c'était un prof, le mec. Et je me rappelle, il était en un état catatonique pendant 48 heures. Et au bout de 48 heures, il ne se rappelait plus de rien. Il ne se rappelait pas de ce qu'il avait fait. Donc, quand on amène ces mecs-là devant un juge qui va partir pour 20 ans, vraiment, ça nous arrivait de pleurer, ça nous arrivait de...
C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez quitté la police.
Oui, moi, j'en trouvais plus. Après, moi, je suis très pote avec... je suis parrain de la brigade anti-guerre, de la BRI. C'est trois de mes potes qui sont rentrés au Bataclan. C'est des monstres, les mecs, c'est des gladiateurs. Ils sont tatoués, ils sont sportifs, ils sont professeurs d'arts martiaux. Ils font c'est des bêtes de tir, de trucs de tout. C'est des types extraordinaires. Mais dans leurs yeux, il y a un truc qui a changé, quoi. C'est-à-dire, on voit, il y a une espèce de fond
de tristesse,
chagrin, de tristesse, de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont été obligés de faire et de voir. Donc après, est-ce qu'on s'en débarrasse complètement, je sais pas.
Je reviens d'un mot à Roger Borniche. Déjà, le fait de mourir dans son lit à 101 ans, il y a quelque chose qui a ajouté, on a l'impression, à la légende. Je lisais les articles au mois de juin dernier à sa mort. C'est vrai que c'est le plus grand flic de France. On rentre dans la légende, c'est-à-dire mourir dans son lit déjà.
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. À 101 ans, c'est vrai, c'est incroyable. Mais il y a Roger Le Taillon-Terre aussi, qui j'en parlais tout à l'heure, qui a été un grand patron formidable. Et Lucien Aimé-Blanc, aussi, qui était patron de l'OCRB. Et c'est lui qui a eu l'idée de créer des groupes de nuit. Il a, à un moment donné, il a dit, attendez, nous, on se couche à l'heure où les voyous se lèvent, et on se lève à l'heure où ils se couchent. Donc, à un moment donné, non, mais personne n'y avait pensé. Et c'est là qu'il a commencé à créer les brigades de nuit. C'est-à-dire les flics qui tournaient la nuit dans les boîtes, qui allaient au renseignement, qui couchaient avec des putes.
C'est comme ça. L'époque
bénie des années 80, n'est-ce pas? Joinville, n'est-ce pas? Stéphane et tout ça. Tout ça est loin.
Tout ça est trop loin.
Retournons en crèche.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les grands flics de l'histoire. Après les flics du passé, nous allons à présent parler, Mathieu, d'un ancien flic devenu roi du polar qui est bien vivant et qui est même avec nous cet après-midi en studio.
Oui Stéphane, surtout, nous allons enfin parler dans cette émission d'une figure de la police qui n'a pas un nom ridicule. Et ça va faire du bien après Alphonse Bertillon et Roger Borniche. Je vais en effet brosser le portrait d'Olivier Marchal. Mon secteur d'activité, vous le savez, étant le portrait satirique, je pressens votre angoisse. Vais-je, en présence d'un invité qui peut potentiellement me casser la gueule, voire appeler d'anciens potes de la BAC pour me casser la gueule tout à l'heure discrètement dans le parking d'Europe 1, céder aux sirènes de la lâcheté en me refusant de dire du mal d'Olivier Marchal, pire, en me servant de mes collègues comme bouclier humain en leur prêtant des vacheries à l'égard de notre invité? Voilà qui serait très mal me connaître.
Oh non, c'est votre genre.
Non, moi j'adore Olivier Marchal, inoubliable créateur d'une des meilleures séries françaises de tous les temps, Braco, même si David me rappelait sournoisement en antenne qu'il avait aussi écrit à ses débuts 2-3 épisodes de Commissaire Moulin. Oh, ne soyons pas mesquins,
ça
David
est, ça commence.
Non, ne soyons pas mesquins. Ah bah si vous allez par là, on peut aussi rappeler que Stéphane Bern n'a pas fait que Secret d'Histoire. Hein, il a aussi publié dernièrement, afin d'apurer une vieille dette au fisc, Châteaux et patrimoines, des timbres au cœur de l'histoire. Commissaire Moulin, écoutez, c'est du Scorsese. Bref, moi, j'adore Olivier Marchal. C'est quand même le type qui a réussi à instiller du réalisme dans les fictions françaises sur l'univers de la police. Je dis pas qu'il y avait du boulot.
J'obéis aux ordres, oui chef. Je suis le droit à la justice. Oui chef. Je hais les nudistes. Oui chef.
Mais
oui,
un peu quand même. Il y avait un peu de taf. Alors forcément, Olivier avait à la base un net avantage sur le scénariste du Gendarme et des Gendarmettes, voire plus récemment sur les scénaristes du Commissaire Moulin et de Navarro. Lui, il a vraiment été flic. Une vocation qui s'est manifestée dès l'enfance. Oui, c'est comme ça que je vois l'enfance, généralement. Globalement, on a tous eu la même enfance. À la question que les instituteurs posent traditionnellement aux enfants, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? question à laquelle David répondait Nicky Larson, Stéphane, Sissi l'impératrice, et moi, plus pernicieusement, histoire de neutraliser le prof, inspecteur des impôts comme papa. Vous, Olivier, vous rêviez de devenir policier pour, je vous cite, être un héros et sauver la fille dont j'étais amoureux dans ma classe. Vision, un brin idéaliste du métier de flic qui a dû inspirer bon nombre de jeunes policiers qui rêvaient comme vous d'interventions héroïques, de répliques choc et qui en 2020 ont dû se contenter de répéter 30 fois par jour « Vous avez votre attestation ?» À 13 ans, vous êtes placé chez les jésuites. Oui, c'est comme ça que je vois les jésuites. C'est là que vous découvrez le théâtre, l'autre passion qui prendra le dessus plus tard. Car oui, à l'adolescence, vous êtes déjà multiple. Il faut dire que l'adolescence, c'est l'âge des tempêtes hormonales, desquelles parfois le talent éclot. Un talent parfois injustement réparti entre les hommes. À 17 ans, David découvre qu'il peut siffler avec sa gorge.
Je peux siffler avec ma gorge.
Ce qui ne sert à rien. Vous, Olivier, vous découvrez que vous pouvez écrire. Un prof de français vous fait découvrir Céline. L'autre. C'est le coup de foudre littéraire. C'est le coup de foudre littéraire. C'est l'éveil de votre plume. Le scénariste couve déjà sous le poulet, car oui, à l'âge où David découvre seulement son deuxième don, sa capacité à imiter le bruit des essuie-glaces...
Est-ce que quelqu'un ici sait imiter les essuie-glaces qui marchent pas ?
Voilà, qui ne sert non plus à rien. Vous, Olivier, vous réussissez le concours d'inspecteur de police. Ce qui est socialement, il faut le dire, plus utile que de savoir imiter les essuie-glaces. Mais voilà, dès le début, vous êtes tiraillé entre la carrière policière et la carrière artistique. Un passage du film La Cité de la Peur fait d'ailleurs étrangement écho à votre dilemme.
Voulant faire plaisir à la fois à sa mère et à son père, il hésite entre une profession artistique et policière. Il embrasse alors la carrière policière et abandonne ses études de trapèze. 1971. Il sort 10e de l'école de police de Nice, avec une moyenne de 11 sur 20, ce qui est bien, mais pas top.
Plus précisément, vous, vous sortez 24e sur 600, ce qui est super bien, et intégrez la PJ de Versailles. Mais psychologiquement, ça devient rapidement très dur pour vous. Et c'est vrai, en entrant dans la police, vous imaginiez ça.
Bonjour, monsieur, gendarmerie nationale.
Bonjour, j'ai fait quelque chose de mal.
Non, monsieur, c'est juste un contrôle de comment ça va.
Comment ça va? Bien, merci.
Et puis finalement, vous êtes retrouvé confronté à ça. La dure réalité, à savoir l'explosion des incivilités, de la violence, du crime organisé, tout ça vous mine, d'autant que vous êtes aussi confronté au ravage de la drogue sur les jeunes que vous récupérez parfois dans des états déplorables, en proie à de terribles hallucinations.
Il y a des vibromasseurs Hello Kitty,
oui.
Il y a des ours en peluche qui vibrent.
Ça va aller, pauvre France. Vous quittez la brigade criminelle en 82 pour rejoindre les renseignements généraux, section antiterroriste, parce que bon, comme chacun sait, la section antiterroriste c'est quand même plus fiesta banana, et vous faites alors une rencontre décisive avec la comédienne Michèle Larocque qui va vous faire comprendre avec beaucoup de subtilité qu'elle est plus branchée acteur que flic.
Il peut me prendre comme ça par les cheveux, il peut me traîner sur le sol, Hugh Grant. Il me fait l'amour sans même me demander mon prénom. Il me jette après, je fais le plus grand kiff de l'histoire des kiffs.
Va pour acteur. Michel vous incite à vous lancer sur scène, vous prenez alors des cours de théâtre au Conservatoire d'art dramatique du 10e arrondissement de Paris, parallèlement à votre carrière dans la police. Les castings se multiplient, en 88 vous décrochez votre premier rôle dans un film qui vous était prédestiné, Ne réveillez pas un flic qui dort, mais c'est en 93 que d'une certaine manière, vous allez changer ma vie, Olivier, et faire de moi l'homme sexué que je suis. Comme beaucoup de jeunes gens de la génération d'avant Pornhub, j'ai découvert les plaisirs du sexe grâce aux séries roses d'M6. En 93, vous êtes à l'affiche, Olivier, d'un téléfilm érotique, Troublante voisine, en était le titre.
Ah
Troublante.
Oui. J'ai regardé ça.
Troublante voisine, et je vais vous dire un truc qui n'est pas là-dedans, mais qui est vrai, c'est ma grand-mère qui m'enregistrait ça, parce que j'avais pas M6 en Suisse, c'est vraiment... Depuis, je devrais consulter, je pense. Ça, c'est du titre, Troublante voisine, hein. Ça veut rien dire, mais ça fonctionne pour tout, enivrante secrétaire, déroutante collègue, surtout que les dialogues étaient aussi sacrément ciselés et diablement ambigus.
C'est beau, non ?
C'est magnifique, Stéphane. Mmh.
Votre prestation dans Troublante voisine est un succès. Vous quittez la police l'année qui suit. La suite, bon, tout le monde la connaît ou presque, vous êtes happé dans la spirale du succès. Spirale absolument symétrique à celle de la loose, puisque votre carrière décolle pile à l'âge où David Castello-Lopez échoue au rattrapage du bac de philo, avec cette analyse jugée encore insuffisante par le prof.
C'est mieux d'être en vie que d'être mort.
Vous, c'est l'enchaînement des rôles, puis le passage derrière la caméra avec Gangster en 2002, puis la consécration, on en a parlé avec 36 Quai des Orfèvres, avec Daniel Auteuil et Gérard Depardieu, suivront Flic, Braco, MR73, Les Lyonnais. En 2011, lors de la sortie du film Le Fils à Joe, vous promettez de faire le tour de la place de l'Étoile nu si le film dépasse le million d'entrées. Le film ayant réuni 1,25 million de spectateurs et étant un homme de parole, vous paraderez donc cul nu sur les champs devant 400 personnes vêtues d'un simple string en papier.
Stéphane, combien d'auditeurs au quart d'heure sur notre prochaine vague d'audience pour qu'on vous voit cul nu dans le bassin de Neptune à Versailles?
18.
18 pour la vie dans les audiences. Mon petit Poséidon naturiste. Olivier Marchal, bravo pour votre carrière. Continuez de nous épater. J'ai adoré Bronx sur Netflix. Je kiffe La Promesse sur TF1. Vous êtes si productif. C'en est presque injuste pour ceux qui ne sont pas aussi rapides que vous. Quand on pense qu'en juin prochain, vous attaquerez votre 8e long métrage, alors qu'à 41 ans, David passera seulement son doc d'histoire.
On est d'accord qu'être nazi, bon, c'est pas bien.
C'est pas gagné en plus. Merci pour le film érotique. C'était pour payer les impôts comme Stéphane avec son livre.
Bah, jetez-vous dessus, il doit être disponible sur YouTube.
Là, ça a été.
Mais vous avez une scène un peu chaude ou...
J'avais refusé de tourner tout nu. Mais c'est érotique. Hein. Non, mais j'avais des scènes de baise, mais habillées. Non, mais bon, c'était la honte, quoi. J'avais un an de retard d'impôt d'impayé et j'étais à découvert de 5 ou 6 mois de salaire. J'étais dans une merde. Et en 4 jours, c'est vrai que ça payait très très bien.
Oui.
Et je l'ai fait. Le problème, c'est que quand ça a été diffusé, c'est vrai, c'est le lendemain, j'avais ma fille, quand je l'ai amenée à l'école, j'avais mis une casquette, des lunettes et tout, parce que tout le monde regardait ça, en fait.
C'est le monsieur de Troublante Voisine.
Oui, c'est le monsieur qu'on a vu hier à la télé. Non, après, j'avais pas de scène déplacée, mais en fait, c'est toujours ridicule.
C'est gênant.
C'est gênant. Après, le film a été oublié. Merci, Mathieu, de le rappeler. Maintenant, comme ça, tout le monde va essayer de le regarder.
Mais j'ai pas envie que vous preniez la grosse tête avec moi, tout ça, cette folie. Cette folie, voilà, on revient à Troublante Voisine.
Mais j'assume tout ce que j'ai fait.
Europe 1, historiquement vôtre.
Nous entrons dans la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre, dédié non pas un retour vers le futur, mais plus modestement, un retour vers le présent. Oui, après 22 Vla les flics, Vla Poul, c'est Castello Lopez, les Dupont et Dupont de l'histoire,
vous l'avez bien dit.
Qui se sont parfaitement répartis les rôles, vous allez voir,
ah oui,
cher Olivier Marchal. D'abord, l'un fait la cuisine, l'autre s'intéresse aux origines des choses.
Olivier Poul, notre spécialiste de la bonne chair, aujourd'hui vous avez... trouver un thème pile dans notre sujet du jour, les bœufs carottes. Ouais, le bœuf carotte.
Oui. Et les bœufs carottes, les deux, je vais vous faire mijoter un peu.
Et vous nous parlerez, David, des gaz lacrymogènes. J'ai l'impression que c'est une chronique destinée à Olivier Marchal. Il y a peut-être un message que vous voulez lui faire passer
ou... Non, il y a un lien avec la police, mais il est ténu et discret.
Bien sûr, tout en finesse. Espérons qu'Olivier ne prenne pas la mouche. Mais d'où vient cette expression prendre la mouche, Stéphane?
Oui, quand on échafouin, parce qu'on s'est fait vanner et on a pris la mouche.
Ça vous arrive rarement? Vous êtes bon camarade, vous.
Oui, mais à la fin, ça finit par m'agacer.
Oui,
quand même.
Le 30 juin prochain, probablement, vous.
Oui, je vous casserai la gueule.
Vous me mettrez un coup de boue.
Voilà, exactement.
Ça sera un moment, on le capturera pour Instagram. Ça fera une bonne scène.
Oui.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous avez déjà beaucoup entendu parler de David Castello-Lopez aujourd'hui, pas forcément en bien vu que c'était dans ma chronique, mais c'était pour rire car David est un génie du journalisme qui remonte pour nous aux origines des choses. Aujourd'hui, pour Olivier Marchal, notre invité, pour notre spécial grand flic de l'histoire, les origines du gaz lacrymogène.
Tout à fait. Alors, vous le savez peut-être pas, sans doute pas même, mais avant d'être un journaliste qui fait des blagues, j'étais un journaliste normal.
Non.
C'est-à-dire juste type qui donne des informations. Et j'ai commencé ma carrière à la radio TSF Jazz. Pour ceux qui connaissent TSF Jazz, chaque heure, en fait, on coupe Miles Davis ou Ibrahim Maalouf et il y a un monsieur ou une dame qui fait un flash ou un journal qui ressemble beaucoup à ceux de Christophe Lamarre, par exemple. Et en 2006, je faisais des reportages sur ce qui se passait à Paris. À l'époque, notamment sur les manifs anti-CPE, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Ça ne nous rajeunit pas,
et
mais oui.
J'ai été pris, comme tant de journalistes avant et tant de journalistes après moi, dans une charge de CRS.
Aïe.
Et j'ai goûté pour la première fois de ma vie au gaz lacrymogène. Et jusque-là, je dois dire que quand je voyais des images à la télé de gens dans des manifs qui se prenaient du gaz lacrymogène, je me disais, ça doit picoter. Mais ce jour-là, en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, le gaz lacrymogène, ça fait infiniment plus que picoter. Ça vous défonce complètement la face. C'est-à-dire, on ne peut plus ouvrir les yeux, on a l'impression qu'on va devenir aveugle, il y a la gorge qui brûle, on tousse sans pouvoir s'arrêter. C'est horrible. Alors, c'était il y a 15 ans, mais je m'en souviens encore et il m'a semblé sympa, donc, pour notre numéro spécial police, spécial Olivier Marchal, de parler donc des origines du gaz lacrymogène. Alors, mettre des trucs qui piquent dans les yeux de ses ennemis pour qu'ils arrêtent de vous emmerder, c'est une pratique assez ancienne quand même. Hein. On le faisait déjà au Japon du Moyen-Âge avec du piment en poudre, parce que vous avez déjà vu, si vous mettez du piment dans vos yeux, ça fait mal. Il suffit d'en faire une petite poudre, vous l'envoyez dans le visage des gens.
Ou il suffit de bouffer un truc avec du piment, de mettre soi-même le piment, de préparer un plat, je ne fais jamais plus la cuisine depuis, et ensuite d'enlever ses lentilles.
Ah,
bah, et là, je peux vous dire que vous dégustez bien.
Hein, moi, ma vue est parfaite, donc je ne suis pas concerné.
Ah, tiens, au moins, comme ça, quelque chose est parfait. Enchaînez.
Mais le gaz lacrymogène moderne, donc celui avec du piment, il est les Français et il date de juste avant la Première Guerre mondiale, où la police française a fait des essais avec. Mais en fait, c'est quand même vraiment pendant la Première Guerre qu'il a été utilisé à grande échelle. Et il est fort possible, même si ce n'est pas complètement avéré, que ce soit une attaque française au gaz lacrymogène qui ait déclenché la guerre chimique entre l'Allemagne et la France, avec cette surenchère qui a amené à l'utilisation de gaz qui ne faisait pas que pleurer, mais qui vous tuait votre race, tout simplement. Alors, le truc, c'est qu'en France, après la Première Guerre, le gaz est devenu un petit peu tabou à cause des dégâts qu'il avait fait dans les tranchées. Et donc, il a cessé temporairement d'être utilisé par la police. Mais en revanche, il y a un général américain qui avait géré les affaires de gaz de combat pour les États-Unis pendant la guerre et qui, revenu chez lui, a commencé à être une sorte d'ambassadeur de VAP du gaz lacrymogène. Et il a convaincu plusieurs services de police américains de commencer à l'utiliser. Et ça a très bien marché. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un peu l'arme parfaite pour disperser les foules. Il y a un journaliste américain qui, dans les années 30, a écrit la chose suivante. Il a écrit « Le gaz lacrymogène semble être admirablement adapté au but d'extraire l'individu de la foule. Le gaz fait en sorte que l'individu ne puisse plus penser à rien d'autre qu'au fait de soulager sa propre détresse. Dans ces conditions, la foule cesse d'exister, ne subsiste plus qu'une fuite destinée à s'éloigner de la source de la torture. » Et Amos Fries, le général, il ajoutait « Il est plus facile pour un homme de garder le moral face à des balles de fusil que face à du gaz lacrymogène. » Et assez vite, toute la police américaine, elle était d'accord, et puis toutes les polices du monde ont commencé à l'utiliser. Alors il y a quand même un truc étonnant avec le gaz lacrymogène, c'est que le droit international interdit le fait d'utiliser du gaz lacrymogène sur le champ de bataille, donc à la guerre, mais il dit en revanche, pour disperser les gilets jaunes, franchement, il n'y a pas de problème. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que c'est permis pour les gilets jaunes et c'est pas permis sur le champ de bataille?
Non, c'est permis sur le champ de bataille, c'est absurde. C'est la guerre, on fait ce qu'on veut.
Ah non, il y a des conventions, des règles. Alors, il y a des marches de Genève, on peut plus commettre d'actes de barbarie, par exemple, la GGM. Non, c'est jamais un ennemi, par exemple.
Quelques pays récemment où ça s'est quand même passé.
Mais oui, ça s'est passé, mais c'est quand même contraire.
C'est
quand même
contraire au droit international. C'est pas gêné en Arménie.
Ça, c'est vrai, Stéphane. C'était le petit édito géopolitique de Stéphane Bern.
Je vais dire, mais en fait, pourquoi? Parce que, un peu comme pendant la Première Guerre mondiale, il y a un risque d'escalade. Si vous êtes une armée et que vous voyez un nuage de gaz arriver vers vous, vous ne savez pas si c'est du gaz sympa ou du gaz très très méchant qui tue.
C'est quoi, et donc, le gaz sympa?
C'est le gaz lacrymogène.
Ils vont pas envoyer du gaz hilarant.
Non, le gaz sympa, le gaz lacrymogène, c'est le gaz qui ne tue pas, qui est par opposition à des gaz qui peuvent vous tuer comme les gaz de la Première Guerre mondiale. Donc quand vous voyez ça arriver vers vous, vous êtes susceptible de riposter avec des gaz plus puissants. Et là, c'est la merde, l'escalade, c'est la Première Guerre mondiale. Alors voilà, et donc c'est pour ça que c'est permis pour les gilets jaunes et pas à la guerre. Alors moi, pendant les manifs anti-CPE, ça s'est pas si mal terminé que ça. Parce que j'avais beau être un petit parisien bobo avec un micro TSF jazz.
Quand même. Ça, c'est vraiment le prototype du bobo.
J'ai été quand même secouru par de jeunes révolutionnaires qui parlaient avec ce qu'on appelle quelquefois l'accent lasca. Voyez, et ça m'a touché parce que ça voulait dire qu'il y avait une sorte de front social commun devant l'adversité des larmes et de la toux. Voyez, ils m'ont mis du collier, ils m'ont donné une serviette et ils m'ont fait en sorte que je puisse me réfugier dans un endroit où il n'y en avait plus. Et donc finalement, pour moi, ce moment de gaz lacrymogène, c'est pas un si mauvais souvenir que ça.
Voilà. Le gaz lacrymogène, c'est la conclusion de cette chronique.
Merci beaucoup David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Et une fois qu'on aura séché nos larmes, nous allons découvrir un bon petit plat de chez nous, les bœufs carottes.
Oui, le bœuf carotte, et on va parler des bœufs carottes, c'est plus sympa que le gaz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, chaque après-midi, l'histoire de trois personnages qui avaient un point commun aujourd'hui. Trois grands flics, dont notre invité vedette aujourd'hui, Olivier Marchal. Olivier Pouls, vous êtes avec nous aussi pour nous parler gastronomie avec l'histoire d'un plat. Aujourd'hui, forcément, le plat, c'est...
le bœuf carotte. Mais, mon cher Olivier, est-ce qu'il vous est arrivé de voir débouler un jour dans votre bureau, des collègues, si l'on peut dire, ce qu'on appelle les bœufs carottes, pour venir...
Oui, plusieurs fois, oui. J'ai même eu le plaisir de visiter leurs locaux et de partager quelques moments avec eux.
Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, les bœufs carottes, c'est ce qu'on appelle la police des polices. Oui. Et pourquoi, d'ailleurs, les appelle-t-on les bœufs carottes ? Qui a une idée?
Parce qu'ils nous faisaient mijoter, les flics, ouais. Le flic qui était soupçonné, ils les faisaient mijoter en garde à vue, comme on fait mijoter le bœuf carotte.
Voilà, alors il y a deux explications, c'en est une qui est la plus vraisemblable. Il y en a une autre qui dit que les flics qui terminaient chez les bœufs carottes, en général, ils étaient mis dehors de la police, et donc ils n'avaient plus de sous, ils ne pouvaient plus manger que du bœuf et des carottes. Ouais. Mais j'y crois un peu moins. J'aime bien les explications.
Ah oui.
Alors, oui et non, parce que pour faire un bon bœuf carotte, on prend ce qu'on appelle des bas morceaux, c'est-à-dire des morceaux qui sont pas chers. On fait pas du bœuf carotte avec une côte de bœuf ou avec... voilà, exactement, on va utiliser de la macreuse, de la joue, par exemple, du paleron, bref, des morceaux qui ne sont vraiment pas chers. Alors, le bœuf carotte, lui, c'est un plat qui remonte au XVIIe siècle. La première recette de bœuf carotte, elle est publiée par François-Pierre de la Varenne, qui était un grand cuisinier de l'époque, qui est l'un des premiers à avoir également publié des livres de recettes dans son cuisinier François, en 1651. Il présente ce qui est aujourd'hui le bœuf carotte. Ça s'appelle aussi le bœuf mode.
Ah bon?
Et on l'appelait le bœuf à la mode de la maison, en réalité, son nom complet, parce que c'est une variante d'un bourguignon, c'est tout simplement un bœuf qu'on va laisser mijoter pendant de longues heures avec des carottes et des oignons. Bon, pour ce qui est de la recette, je vais vous la donner.
Quelle différence
dans un
avec un bœuf bourguignon, justement?
Alors, c'est le vin. Dans un bœuf bourguignon, on va mettre du vin rouge. Dans un bœuf carotte, on va plutôt mettre du vin blanc. Donc, la couleur de la sauce n'est pas la même. Et le goût non plus n'est pas le même, puisque entre le vin blanc et le vin rouge, le goût n'est pas le même. Il y a des tanins dans le vin rouge qui colorent et puis qui donnent de la structure à la sauce, ce qui n'est pas le cas du vin blanc. Donc, pour la recette, c'est du bœuf, des bas morceaux à braiser, du paleron, de la macreuse ou de la joue. Des carottes, évidemment, un oignon, une gousse d'ail, un peu de vin blanc, 25 centilitres, un beau verre, 50 centilitres de bouillon de bœuf, un bouquet garni, du sel et du poivre. Première opération, on va faire revenir le bœuf pour le colorer dans une matière grasse. On va rajouter le vin blanc, l'oignon, le bouquet garni. On va laisser réduire très légèrement de manière à évaporer l'alcool du vin blanc. On va mouiller avec le bouillon de bœuf. On laisse cuire tranquillement, on laisse mijoter justement, comme Olivier quand vous étiez dans le bureau de vos collègues. On vous laisse mijoter tranquillement pendant... Mais c'est pas 2-3 jours en garde à vue, là. C'est juste une heure ou deux, tout simplement, sur le coin du feu. On rajoute les carottes et on relaisse mijoter pendant 45 minutes. Et quand tout est cuit, tout simplement, il n'y a plus qu'à servir bien chaud, accompagné par exemple d'un bon verre de Beaujolais. Ça me semble une belle association.
Avec beaucoup de modération. On le rappelle, Olivier.
Et quand vous faites un gigot de
un gigot rôti, de 7 heures, par exemple.
Un rôti de 7 heures, oui, c'est quel morceau?
Alors, le rôti, si on fait un rôti de bœuf, on ne le fait jamais 7 heures, parce que là, franchement, sinon c'est beaucoup trop cuit. Oui.
C'est pour ça que c'était dégueulasse.
En revanche, on fait du gigot de 7 heures, le gigot d'agneau. Alors là, c'est une cuisson extrêmement longue, très basse température, de manière à...
Ça, vous savez faire aussi?
Je vous donnerai la recette un de ces jours, si vous voulez. Ça, c'est très facile à faire.
Je préférais que vous le fassiez.
Si vous avez 7 heures, écoutez, je passerai à 13 heures et on mangera à 20 heures demain.
Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'appeler Olivier Poul directement pour qu'il vienne cuisiner pour vous, chers auditeurs, vous avez les recettes sur le site, évidemment, d'Europe1.fr, Stéphane. Mais vous n'avez pas pris la mouche aujourd'hui avec toutes ces petites piques qu'on s'est envoyées?
Non, mais ça viendra.
Ça viendra, mais déjà, ce qui va venir en premier, c'est l'explication.
L'explication d'où ça vient, prendre la mouche.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Attention, acteur studio. Bzzz. D'où vient l'expression « prendre la mouche »
Je suis
Stéphane.
Sûr que David sait mieux imiter la mouche. Je suis sûr qu'il est champion David. D'imitation de la mouche.
Je sais pas,
La mouche portugaise.
Elle est malade.
Je me suis dit, je ne sais pas le faire, autant faire un truc ridicule.
Qui a attrapé la Covid-19.
Alors,
on parle de mouche.
Travaillant avec vous au quotidien sur Europe 1, mon cher Mathieu, je peux déclarer immodestement que j'ai de l'humour, en tout cas suffisamment pour supporter le vôtre, enfin soi-disant le vôtre. Bref, à vos côtés, je n'ai encore jamais pris la mouche.
Pas encore.
Prendre la mouche, c'est vrai, on va travailler sur cette expression. Oui. En plus, c'est vrai qu'on a le même humour quand même.
Donc, oui, ça nous aide un peu.
Au XVIIe siècle, voulez-vous savoir, la mouche désigne tout ce qui vole et ressemble grosso modo à un insecte. Oui, parce qu'on n'était pas très au courant de, par exemple... on parle de la mouche au bœuf pour désigner le temps. L'abeille est appelée la mouche à miel.
Ah, c'est pratique, ça.
La tique, c'est la mouche à chien.
Et donc la mouche était la mouche à merde. Je ne sais pas comment distinguer.
L'explication de l'expression est simplissime. À la campagne, on voyait bien les animaux énervés par une mouche et se cabrer alors que nous, pauvres humains, on l'avait à peine remarqué. Cette soudaine colère a donné naissance à prendre la mouche. Elle a aussi donné naissance à l'expression « mais quelle mouche l'a piqué ?»
Alors qu'une mouche ne pique pas.
Voilà. Alors qu'au début du XVIIIe siècle, le naturaliste français Georges-Louis Leclerc de Buffon déclare « une mouche ne doit pas tenir dans la tête d'un naturaliste plus de place qu'elle n'en tient dans la nature », avec le temps, on a su reconnaître à l'insecte de grande qualité.
habile aux armes, on devenait une fine mouche. Quand on tirait bien, on faisait mouche. Et des navires très maniables devenaient les bateaux-mouches. Terminons par un faux proverbe chinois inventé par notre ami Philippe Geluck. Quand on est une mouche, on a souvent des amis dans le besoin.
Ah, c'est joli.
Oui.
Les amis, voilà. Vous entendez cette douce mélopée?
C'est la fin de l'émission.
Elle signifie qu'effectivement, un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. 22 v'là les flics, ils étaient 3 en réalité. Sans vous compter Olivier Marchal, lequel des deux autres avez-vous préféré? Alphonse Bertillon ou Roger Borniche? C'est quel flic qui vous a le plus inspiré même dans votre carrière?
C'est Borniche, oui.
C'est Borniche.
Borniche, évidemment.
On n'a pas parlé de Frédéric Dard. Bon, c'était un peu une vision un peu
particulière. Saint-Antonio, mais c'est Saint-Antonio. Oui, c'est surtout. On va tous voulu être flic pour ressembler
mais
à Saint-Antonio.
Vous avez préféré faire Olivier Marchal.
Comment ça? Mais il fallait bien que je fasse Olivier Marchal. C'était notre invité. Enfin, Stéphane, il faut être poli.
Alors, Olivier Marchal, on vous retrouve ce soir dans La Promesse, une série policière qui est haletante aux côtés de Laurent Deutsch, Sophia et Saïdi notamment, avec les épisodes 3 et 4. C'est à 21h05 sur TF1.
Alors, vous savez, j'aime pas trop attendre. Vous pouvez nous raconter la fin, Olivier Marchal, de cette série? Comme ça, on gagne un petit peu de temps.
Ça
se finit
obligé.
Comment? Vous
mourrez
la fin,
de regarder,
vous
c'est ça.
Pour connaître la suite d'Historiquement Vôtre, il va falloir patienter un peu aussi. On se retrouve demain dès 16h. Mais Stéphane, vous n'avez pas peur, vous, de nous dévoiler ce qui nous attend demain? Quel est le programme?
Vous savez que je n'ai peur de rien, vous le savez. Et eux non plus, d'ailleurs. Demain, on réunit 3 personnages qui ont traversé le désert. 3 dieux du sable. L'aventurière énigmatique Isabelle Eberhardt, qui a parcouru le Sahara. L'explorateur René Caillé, premier Européen à avoir rejoint et surtout être revenu de Tombouctou. Et vous?
Et moi, un vrai dieu du sable, lui aussi en maillot rouge, s'il vous plaît, vous vous en souvenez certainement, Stéphane, David Hasselhoff, même s'il n'est plus vraiment en alerte. Il a longtemps joué dans la fameuse série Alerte à Malibu, qui nous a tous beaucoup inspirés.
Je
quand
me souviens surtout de Pamela Anderson, moi.
Ah oui, moi aussi, mais enfin David était quand même là, il était un modèle pour nous, un modèle de virilité.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.